journal des sciences.
Et on consacre notre premier sujet, eh bien, un sujet que n'aurait pas renié Jules Verne, c'est l'énergie renouvelable marine. Alors que la première éolienne flottante française va être installée dans la baie du Croisic, une équipe de chercheurs français vient de publier des résultats prometteurs pour exploiter une autre forme d'énergie moins connue, l'énergie osmotique.
Oui, pourquoi on en parle ? Parce que la France dispose du deuxième domaine océanique au monde, mais qu'elle exploite très peu ces énergies marines renouvelables dont on attend beaucoup. Elle accuse notamment un énorme retard sur l'éolien offshore posé, c'est la seule technologie qui est aujourd'hui opérationnel, avec néanmoins trois projets qui devraient être mis en service d'ici 2021. Deux autres technologies sont au stade du prototype. Il y a donc l'éolienne flottante, avec le premier prototype français, Floatgen, qui a embarqué hier pour être amarré au large du Croisic, c'est en Loire-Atlantique. Autre énergie, celle des courants, l'exploitation des courants sous-marins et des fleuves, c'est l'hydrolien, plusieurs projets de fermes qui existent en France. Mais reste au moins deux autres types d'énergie fournies par l'eau que l'on ne parvient toujours pas à capter, en tout cas aujourd'hui, comme l'explique Jean-Louis Ball, c'est le président du syndicat des énergies renouvelables.
Alors, il y a donc une autre source d'énergie renouvelable qui est l'énergie osmotique. En fait, c'est l'attraction de l'eau salée vis-à-vis de l'eau douce donc, qui arrive des fleuves. Donc, quand on mélange de l'eau salée et de l'eau douce, il y a donc une attraction entre les deux eaux. Et ça représente une énergie absolument considérable, puisque c'est l'équivalent d'une chute de 270 mètres de haut. Donc, on voit bien qu'il y a une énergie considérable. Maintenant, comment capter cette énergie ? C'est la grande question. On peut le faire probablement au travers de membranes, hein, qui vont essayer d'exploiter cette différence de pression entre l'eau salée et l'eau douce. Et ça fait donc l'objet de recherches. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore plus loin que le niveau de la recherche. Il n'y a pas de prototype de ferme pilote, comme c'est le cas donc dans l'hydrolien ou l'éolien flottant. Une autre source d'énergie possible, c'est celle des vagues de la houle. Et là, on en est un peu plus loin que pour l'énergie osmotique. Là, on en est à avoir toute une série de prototypes, mais il n'y a encore aucune technologie qui a aujourd'hui démontré qu'elle pouvait s'imposer. Donc on en est encore là aussi au niveau de la recherche et développement.
Et cette semaine, une équipe française publie des résultats encourageants pour exploiter cette fameuse énergie osmotique, Zoé, avec une technologie tout à fait différente de celle des membranes qui étaient privilégiées jusqu'ici.
Oui, puisque pour capter cette énergie libre qui se perd quand l'eau salée rencontre de l'eau moins salée, plusieurs chercheurs travaillent, donc on l'a dit, sur des membranes capables donc de laisser passer l'eau, mais de capter cette énergie née du mélange, sans grand succès jusqu'ici. Mais d'autres chercheurs ont imaginé un système qui n'a rien à voir. Et une équipe française qui travaille sur le stockage de l'énergie et ses modélisations vient de publié dans Physical Review des travaux prometteurs destinés à améliorer cette technique. Cette technique, eh bien, c'est le principal auteur de ces travaux, Benjamin Rothenberg, spécialisé en physico-chimie et chargé de recherche au CNRS, qui a essayé de m'expliquer.
Le procédé sur lequel on travaille repose non pas sur le passage d'un écoulement à travers une membrane, mais au stockage de l'électricité dans des condensateurs. Les condensateurs, ce sont des dispositifs de stockage de l'électricité, donc ils vont être reliés à un circuit électrique dans lequel vont circuler des électrons. Et pour que ce courant électrique puisse circuler, il faut qu'on ferme le circuit, entre guillemets, par un courant ionique, donc avec une solution liquide dans laquelle baignent les électrodes qui servent à stocker la charge. Maintenant, on va pouvoir stocker plus ou moins de charge dans l'électrode en fonction de ce qu'il y a dans la solution dans laquelle elle baigne. Et plus la solution est salée, plus ça va être facile de stocker de la charge dans le condensateur. Et c'est là qu'on peut voir se profiler cette technologie, c'est que on va pouvoir charger le condensateur en utilisant de l'eau salée comme électrolyte. La deuxième étape du procédé consiste à remplacer l'eau salée par de l'eau qui l'est moins et à décharger notre condensateur en présence de cette eau qui est moins salée. Alors là, on peut se dire qu'on n'a pas gagné grand-chose, mais en fait, on va récupérer plus d'énergie au moment où on décharge qu'au moment où on charge. Et donc en faisant des cycles où on charge avec l'eau salée et on décharge avec de l'eau moins salée, on va au final pouvoir extraire de l'énergie.
En bref, une équipe française parvient à décrypter le génome du rosier pour la première fois.
Ces travaux publiés dans Nature Genetics cette semaine ont permis de retracer les contributions respectives des rosiers européens et chinois au génome du rosier moderne et d'identifier l'ensemble des gènes qui sont impliqués dans les voies de biosynthèse du parfum et de la couleur de la rose. La comparaison de ce génome du genre rosa avec ceux d'autres plantes de la famille des rosacées, comme par exemple le fraisier ou le framboisier ou le pommier, a aussi montré que le rosier, le fraisier et le framboisier sont évolutivement très proches, plus proches qu'on ne le pensait.
La pollution touche 9 personnes sur 10 dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé.
Et elle tue 7 millions de personnes par an dans le monde, soit plus que les accidents de la route, le sida, le diabète et la tuberculose cumulés. Pour obtenir ces chiffres, pour la première fois, l'OMS a recueilli les données de plus de 4300 villes dans 108 pays. Et ce qui inquiète le plus l'Organisation mondiale de la santé, c'est la pollution de l'air intérieur qui a entraîné le décès de 3 800 000 décès l'année dernière. Un phénomène qui touche essentiellement les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Et à partir de demain, la France va vivre au-dessus de ses moyens écologiques.
C'est le fameux jour du dépassement, ce qui signifie que si le monde entier vivait comme les Français, à partir du 5 mai, la planète aurait déjà consommé l'ensemble des ressources naturelles qu'elle peut renouveler en un an. Selon ce rapport annuel que produit la WWF, la France fait partie des 10 premiers pays à vivre à crédit cette année sur le dos de la nature, derrière le Qatar, les États-Unis ou la Russie, mais bien avant l'Espagne ou le Maroc, par exemple.
Et on consacre notre deuxième sujet de la semaine à cette étude qui montre pour la première fois que les amphibiens sont victimes des perturbateurs endocriniens.
C'est une étude importante car elle permet de mieux comprendre l'effondrement dont est victime cette espèce, les amphibiens, depuis les années 80. La famille des grenouilles, crapauds et tritons ne va pas bien du tout. Son taux d'extinction est 211 fois plus élevé que celui de toute autre espèce. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. La diminution des surfaces de zones humides, l'apparition d'espèces invasives comme le grenouille taureau qui fait des ravages en France et l'acidification des eaux douces. Mais il n'y avait pas en revanche de consensus scientifique pour expliquer, en tout cas sur le rôle que peuvent jouer la pollution environnementale avec notamment les perturbateurs endocriniens. Et bien l'équipe de Stéphane Reynaud, chercheur au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, notamment au CNRS, qui publie ses résultats cette semaine dans PNAS et qui est parvenue à démontrer pour la première fois que ces perturbateurs endocriniens, ils ont des conséquences directes sur les xénotopes qui font partie de la famille des amphibiens.
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi deux perturbateurs endocriniens qui sont récurrents dans les eaux de surface. Un perturbateur endocrinien historique, qui est un hydrocarbure aromatique polycyclique, donc qui est produit par des feux de forêt, la combustion des matières organiques, par exemple les voitures, donc c'est le benzoapyrène. Et puis un polluant qui est plus émergent, qui est actuellement sur la sellette comme perturbateur endocrinien, qui est le triclosan, qui est une molécule qu'on retrouve dans tous les produits de soins, parce que c'est un antibactérien. Donc on a exposé nos xénopes du stade tétard 2 jours jusqu'au stade adulte mature, à des concentrations de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'environnement. Et puis ces concentrations, elles sont très proches des concentrations maximales tolérées par l'OMS dans notre boisson. Les xénopes à l'âge adulte présentent ce qu'on appelle une intolérance au glucose. Vous, quand vous mangez quelque chose, votre glucose sanguin va augmenter, puis très vite, votre insuline va réguler ce glucose sanguin et votre glycémie va revenir à la normale. Ces xénopes-là ne sont plus capables de réguler le glucose ou le régulent beaucoup moins bien. Ils ont une stéatose hépatique, ils ont une activation de certains gènes qui sont impliqués dans les métabolismes lipidiques et glucidiques, et surtout ils ont une hypersécrétion d'insuline, donc nos xénopes sont prédiabétiques à l'âge adulte. Lorsque ces xénopes se reproduisent, la descendance met beaucoup plus de temps à arriver à la métamorphose, qui est une étape cruciale, le développement des amphibiens, et puis surtout les individus sont beaucoup plus petits et beaucoup moins gros. Déjà, on est les premiers à montrer qu'il y a un effet sur le métabolisme énergétique, sur le métabolisme en général. Et tout ça, ça pose d'énormes problèmes, puisque s'il y a un assèchement de la mare qui arrive précocement, si les amphibiens ne sont pas métamorphosés, tous les tétards meurent. Et puis s'ils sont plus petits ou moins lourds à la métamorphose, eh bien, ils ont plus de mal à se nourrir avec les proies qu'on trouve habituellement autour.
En bref, la NASA a interrompu à la surprise générale son projet de rover lunaire.
Et ce, malgré la volonté affichée à la fin de l'année dernière par Donald Trump de renvoyer des astronautes sur la Lune, et on en a parlé la semaine dernière, et bien la NASA a mis un terme à son unique programme de véhicules lunaires. Ce robot était baptisé RP. Sa construction avait débuté il y a une dizaine d'années. Il aurait dû être le seul au monde capable d'explorer les régions polaires de la Lune. Il a été le premier module lunaire américain depuis Apollo 17 en 72, et le premier véhicule autonome des États-Unis sur la Lune. Son lancement était prévu pour 2022.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre petite rubrique de science improbable, un panel de chercheurs de la NASA a précisément dévoilé quels étaient les films de science-fiction qu'ils estimaient être les plus et les moins réaliste.
Et oui, alors c'est un petit pont intéressant vers l'émission que vous nous préparez. Alors parmi les films les plus aimés de ces chercheurs et de ces chercheuses surtout de la NASA, on trouve Seul sur Mars qui a parfaitement rempli sa mission, le film de Ridley Scott qui est clairement, on peut le dire, une déclaration d'amour à la NASA, est loué par les chercheurs pour sa précision scientifique.
Pour sa culture de pommes de terre peut-être.
Pour sa culture de pommes de terre, ça c'est vous qui le dites. On a aussi Interstellar de Christopher Nolan qui est salué grâce à une modélisation extrêmement réaliste, en tout cas grâce à ce qu'on sait de la structure d'un trou noir, et on sait d'ailleurs que Christopher Nolan avait travaillé avec l'astrophysicien Kip Thorne pour préparer ce film. Et alors on a aussi Apollo 13 évidemment, qui peut trouver grâce aux yeux des chercheurs de la NASA, puisque le film retrace de la manière la plus fidèle possible, certaines fois d'ailleurs avec des enregistrements radio authentiques, la mission Apollo 13 et ses péripéties. Par contre, du côté des films que la NASA aime le moins, on retrouve alors peut-être sans surprise Armageddon, Mission to Mars ou Red Planet. Mais alors surprise, même si elle l'avait dit déjà à l'époque, eh bien les chercheurs de la NASA n'aiment pas du tout Gravity, le film d'Alfonso Cuarón qui vous a pourtant fait rêver, Nicolas Martin.
Moi, j'ai beaucoup aimé.
Et
moi,
nous aussi, vous y étiez avec eux. Eux, c'est donc Sandra Bullock et George Clooney qui se retrouvent propulsés hors de l'ISS après une pluie de météorites. Et alors, même si le film a beaucoup surpris par ses qualités, a beaucoup plu au grand public, eh bien les chercheurs de la NASA ne l'aiment pas du tout. Elle cite notamment la facilité avec laquelle Sandra Bullock change d'orbite sans aucun problème, alors qu'en véritablement, ça l'aurait vraiment posé.
Et surtout,
le fait qu'elle porte de simples sous-vêtements très beaux, d'ailleurs un beige assez sobre, presque un côté Gap, alors que dans la vraie vie, les astronautes, eh bien, portent des couches.